This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous avez du mal à faire un bilan de l'année écoulée? Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 632. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. C'est la dernière fois que je vous le dis cette année, bah oui, dernière fois. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2021, dernier jour de l'année 2021. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année, ce que vous en avez pensé. Bien sûr, hein, difficile hein, cette année, chamboulé bien entendu par ces virus, par ces mesures, ces changements incessants. Et je voulais faire un bilan et puis je me suis rendu compte que finalement que c'était un peu compliqué. Je sais pas vous comment vous voyez les choses, mais c'était quand même un petit peu compliqué de faire un bilan, de regarder cette année 2021 en disant dans sa globalité, qu'est-ce que je peux en retirer? Comment je peux? Est-ce que finalement il y a une certaine globalité? Ou est-ce que finalement c'était une espèce de continuité de 2020? Vous voyez? Est-ce qu'il y avait finalement le avant 2020 et puis depuis 2020, 2021, finalement on est un petit peu dans cette continuité? Moi je sais pas trop comment le voir, mais j'ai quand même essayé d'aller piocher dans cette année des petits éléments et de vous en faire un bilan, parce que voilà, je vais vous l'avez promis déjà, et puis je pense que c'est intéressant de faire un bilan, même si finalement demain on sera le 1er janvier, on changera d'année, mais ça ne change pas grand chose hein, dans la logique. Mais voilà, c'est vrai que ces dates rythment notre vie, notre calendrier, peut-être même que vous avez pris des bonnes résolutions. Alors bon, vous savez que je suis pas très résolution, je suis plutôt sur les intentions qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre comme intention pour finalement développer ce qu'on a envie de faire. Et vous savez, je suis fan de mes trois mots. Alors mes trois mots, je vous en parlerai que la semaine prochaine. Hein, c'est quelque chose que je fais chaque année. J'ai une formation qui s'appelle, enfin un programme qui s'appelle Planifier votre année, dans lequel il y a la logique, la démarche complète pour planifier vos trois mots. Et puis il y a des choses qui vont avec, hein, notamment sur l'organisation, sur comment on les met en musique, tout ça. Bon, mes trois mots, ça sera la semaine prochaine. Je vous en parle la semaine prochaine. Je vous annoncerai mes trois mots la semaine prochaine. Mais là, bien sûr, je voulais vous d'abord faire un bilan. Alors, je l'ai dit, hein, il y a cette espèce de sensation un peu bizarre hein, avec le virus, confiné, pas confiné, qu'est-ce qui va se passer, quel variant il peut y avoir, etc. Mais il y a des choses que l'on maîtrise, parce que le virus, on le maîtrise pas. Mais qu'est-ce qu'on maîtrise? Moi, il y a un truc que j'ai pu maîtriser, c'est que c'était ma première année complète sans faire de cours à l'université, dans les écoles, depuis plus de 10 ans. Voilà, ça faisait, j'ai fait des cours pendant 12 ans, 12-13 ans, et là, 2020, en 2020, j'avais dit j'arrête. Et en 2021, c'était la première année sans faire une heure de cours dans une école, dans une université. Et pourtant, je peux vous dire que certains ont essayé de me faire revenir. L'été dernier, par exemple, j'ai eu un message me disant « Je cherche un enseignant, etc. Je sais que vous avez enseigné dans tel truc, etc. Patati, patata. Voudriez pas revenir ?» Et j'ai dit « Non. » Et pourtant, c'est fait moins de revenus. C'est-à-dire que ma diminution des revenus a été importante sur ce plan-là. Oui, ce qui est logique, hein. Vraiment, ce qui est totalement logique. Imaginez bien même qu'à une époque, c'était mes revenus principaux, je pouvais vivre de ça quand j'étais maître de conférence associé à l'université, même si c'était à mi-temps, ça restait quand même, ça faisait un salaire qui était complet sans que finalement je fasse autre chose à côté, si je voulais, et pourtant je faisais d'autres choses à côté. Donc cette perte de revenus, qui était même garantie à un moment donné, puisqu'on disait en début d'année, vous allez faire tant d'heures, multiplié par temps, je savais combien j'avais, etc. Ce volant-là, qui était pour estimer une certaine tranquillité, hein, sur le plan des revenus, et ben en fait c'était devenu un poids. Il y a un moment donné c'était devenu un poids, et je l'ai savouré en 2021 de me rendre compte à quel point ce poids par rapport au temps, la liberté d'esprit que ça m'a apporté aussi de ne plus enseigner, de ne plus avoir à me déplacer, surtout sur cette année, hein, franchement. Et puis je l'avais vu sur 2020, sur les derniers cours que j'avais fait en 2020, avec enseigner à distance, etc. Enfin moi c'était Il y avait à un moment donné, faire des cours sur Zoom, c'était pas trop le truc qui me convenait. En plus, ça provoquait une gestion qui était même un petit peu compliquée sur certains aspects. Donc, vraiment, je le dis, ça m'a apporté un temps que j'ai pu mettre sur d'autres choses, ça m'a apporté une grande liberté d'esprit, un soulagement, vous voyez, un soulagement, vraiment un soulagement. C'est-à-dire que j'adorais enseigner, vraiment, et c'est quelque chose que j'adore faire, mais maintenant je le fais d'une manière différente, je le fais par les formations, je le fais par le coaching, je le fais par tout ce que je monte, hein, les programmes, etc. Mais les à côté, en fait, et les à côté... C'était quoi? C'était l'administratif, la gestion des plannings, la gestion par moment des relations avec les élèves sur certaines choses, leur motivation, des fois qu'on n'arrivait pas à faire bouger ou quoi que ce soit, et puis des fois des projets qui n'avancent pas, tout simplement. Moi j'avais souvenir d'avoir des réunions, on disait on va faire ça, ça et ça, et puis quelques temps après, il n'y a rien, et puis vous savez, il y a des directions qui changent, il y a des espèces de cycles, etc. Enfin bref, voilà. Et ben tout ça, en fait, c'était une liberté d'esprit retrouvée en enlevant cette partie-là, qui fut très importante dans ma vie, qui m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu développer ma pédagogie, j'ai appris beaucoup de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'étais un cancre à l'école. j'étais un cancre parce que franchement, quand je regarde un peu ma scolarité, c'est-à-dire que c'était tellement facile pendant des années que j'ai pas fait grand-chose, et puis que bon, à partir du collège, déjà au collège je faisais pas trop mes devoirs, donc je me rappelle que par exemple, je vous donne l'anecdote, mais peut-être déjà en cinquième, quand il y avait des vous savez, de la grammaire, des choses comme ça, quand on était interrogé, j'avais le lit sur les genoux, je regardais vite l'exercice, je le faisais en direct si j'étais interrogé. Bon voilà, j'ai pris des sales notes parce que je ne travaillais pas, et puis dès que je me mettais un petit peu à travailler, eh ben j'avais des bonnes notes, à tel point par exemple qu'un jour ma sœur m'avait privé de regarder téléfoot un dimanche, m'avait gardé une semaine pendant que mes parents étaient partis au ski, et m'avait privé de regarder téléfoot, m'a dit tant que tu sauras pas tes devoirs, tant que tu auras pas fait ça, ça et ça et ça, tu regarderas pas téléfoot. Finalement j'ai pas regardé téléfoot, et puis j'avais passé du temps à faire mes devoirs, et ce qui tombait bien c'est que le lendemain j'avais été interrogé, j'avais une bonne note. D'un coup on me dit ah ben voilà, quand il travaille il peut faire des choses, etc. Mais en fait c'est juste que je travaillais pas, mais c'était tellement facile de faire certaines choses que j'ai pris des espèces d'aise, vous voyez, à faire les choses facilement. Et puis je jouais à la console, jouais à la Game Boy en cours de français en première. En première je passais plus de temps à jouer au basket, etc. Bon, ça m'a joué des tours. Vraiment, ça m'a joué des tours. Et donc, à un moment donné, je ne voyais jamais comment je pouvais devenir enseignant. Enfin, c'est-à-dire que la surprise totale dans ma vie, c'est le jour où on dit, bah tiens, tu pourrais faire des cours, ça serait intéressant, etc. Et que j'y prenne du plaisir. C'est-à-dire que passer de l'autre côté, d'un coup, c'était une découverte en me disant, bah en fait, j'ai des choses à transmettre, et à les transmettre d'une manière totalement différente de ce que moi, j'avais vécu quand j'étais dans les petites classes. Et puis même, franchement, j'ai des souvenirs en université, en école de commerce, des choses comme ça, des cours qui m'avaient ennuyé au point. Et vraiment, ce que j'avais essayé de faire, c'est justement de dire, bah comment je fais l'inverse, vraiment comment je fais l'inverse. Et donc j'avais appris beaucoup de choses, j'ai développé beaucoup de choses, j'ai des méthodes de production de mes cours, comment je fais mes cours, comment je trouvais des sujets, comment je planifiais les choses, comment je construisais les choses, quels étaient les projets que je montais. Ça m'a apporté beaucoup de choses, hein. J'ai lu beaucoup de livres sur la pédagogie, et ça c'est, vous le retrouvez aussi sur ce que je fais dans mes formations en pédagogie, mes formations en ligne, sur la pédagogie de mes formations en ligne, sur la construction de mes vidéos, sur la construction de mes épisodes, sur la construction de mes contenus. Ça m'a beaucoup apporté, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Et j'avais lu des choses sur les cycles, vous savez, un cycle de 7, 8 ans, 10 ans, sur des trucs, et puis on change de choses, etc. Et vraiment, je le dois dire, ça m'a apporté une liberté d'esprit, vraiment, qui est vraiment indéniable. Et pour vous dire, voilà, je l'ai refusé cette année, j'ai refusé de faire des cours. Ça représentait une belle somme, ça représentait un bon volume d'heures, mais je savais aussi que ce que ça me prenait, ce que ça me coûtait. Et ça, j'ai fait la balance et j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Je m'en suis félicité. J'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit bah oui, t'as bien raison. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi vraiment important. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là après ? Eh ben déjà, il y a eu quelque chose, c'est que c'était une année de découlage des revenus liés au podcast. Et je peux te dire que en fait, par rapport à Kilomètre 42 notamment, mais par rapport à tous les autres, à tous mes podcasts en général et par rapport à ma démarche autour du podcasting, on va dire que j'ai professionnalisé ma démarche podcastique. En réfléchissant beaucoup plus sur comment développer, comment structurer, comment même, bon, bien sûr, il y a eu du changement de matériel. J'enregistre sur un matériel différent, j'ai changé de micro, j'ai pris un enregistreur, il y a des choses que je voudrais encore un petit peu faire évoluer, mais bon, ça c'est à la marge. Et puis c'est pas ce qui fait le contenu, le micro. Le micro, en fait, c'est une aide à améliorer un petit peu le son, avoir un son meilleur en faisant moins d'efforts, ce que j'ai envie de dire. Quand j'écoute ma différence de voix entre les premiers épisodes et maintenant, elle est vraiment, vraiment, vraiment très importante, mais elle ne vient pas que du micro. Elle vient aussi de ma manière de parler, ma manière de préparer les choses, mon habitude, vraiment mon habitude. Et puis, donc j'ai développé des choses, des stratégies autour du podcast, le développement du podcast, etc. J'en ai fait une formation qui s'appelle la feuille de route. Il y a une deuxième formation aussi sur l'enregistrement à distance. Donc ça, c'est des choses que je vous enseigne. Et puis, dedans, je mets aussi tout ce qui est la partie sur comment on gagne de l'argent avec des formations, avec des différentes formations que l'on peut faire, avec des produits, des services, avec plein de choses que l'on peut faire. Et aussi la pub. Parce que je le dis, et parce que vous avez ce message-là qui est martelé par certains formateurs, par certaines personnes en ligne qui vous disent « Non, on peut pas gagner d'argent avec la publicité, il faut pas faire de publicité, il faut absolument vendre des formations, il faut absolument... » Mais peut-être vous n'avez pas envie de vendre des formations en ligne, peut-être vous n'avez pas envie de faire du coaching. Et peut-être vous avez envie en fait de vous dire « Moi, ce que je veux faire, c'est du contenu. » Et que ce contenu, finalement, une fois qu'il est fait, si dedans il y avait une publicité, que je pouvais mettre une pub ou un truc comme ça, ça m'irait bien, ça me plairait bien. Et on a des créateurs de contenu, des podcasteurs qui n'ont aucune offre de formation en ligne, qui n'ont pas de vendent pas de produits ou quoi que ce soit, mais qui vendent à côté de la pub et puis qui vont y rajouter alors souvent du Patreon, des choses comme ça. C'est une manière de faire. Et est-ce que ça permet de gagner de l'argent? Oui, je vais vous donner un chiffre, 15 000 euros. 15 000 euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé en publicité sur mes podcasts cette année. Alors, une bonne partie a été faite sur Kilomètre 42, on va dire, vous savez, c'est la fameuse règle de la loi de Pareto, le 80-20. On va dire que une grosse partie a été faite sur le sponsoring de Kilomètre 42, avec des jolies marques qui sont venues, Nike, Adidas, Babel aussi. Et puis, en fait, quand je regarde un petit peu, il y a des gens comme Apple aussi qui sont passés avec des publicités. Pas qui m'ont fait enregistrer, parce qu'il y a plusieurs modes de publicité, mais il y a eu des épisodes qui ont été vraiment faits. Par exemple, il y en a eu un épisode fait en partenariat avec Adidas. Il y a eu des sponsorings où Nike est venu en disant nous on veut que Bertrand il enregistre sa voix pour faire des pubs, etc. sur le podcast, sur son podcast, sur les podcasts des autres, etc. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui dans cette année-là se sont produits. Et bien sûr, ça suffit pas pour vivre, ce chiffre-là. Mais en fait, ça dépend de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous gardez votre travail et qu'à côté, vous avez 15 000 euros de chiffre d'affaires qui arrive en plus, je pense que vous serez quand même content. Si c'est votre activité principale, comme c'est mon cas, bien sûr, ça ne suffit pas. C'est pour ça que derrière, il faut que je rajoute des formations, les coachings, Patreon, et je vous remercie pour votre soutien. J'ai deux comptes Patreon, ça je reviendrai dessus. Il y a le Patreon de Kilomètre 42, le Patreon de la vie créative. Vous faites patreon.com/Bertrand Soulier, par exemple, pour trouver le Patreon de la vie créative, qui va devenir à terme, je pense, le seul Patreon, en fait. Parce qu'avoir plusieurs patrons est compliqué. Mais ça, je vous en reparlerai parce que c'est un peu ma démarche essentialiste que je dois remettre un petit peu au goût du jour. Donc, tout ça, en fait, c'est un élément qui est important de cette partie financière, bien entendu. Et je dois dire aussi, c'était relayé par l'activité freelance. Moi, je garde du freelance. Alors, bien sûr, à une époque, j'avais dit que je voudrais pas trop faire de freelance. Mais il y a bien quelques dossiers qui me plaisent bien, d'une part parce que, par exemple, je fais pas du freelance sec quand je fais de la création de site internet. En fait, j'y rajoute du coaching dedans. J'y rajoute de l'accompagnement. Comment on écrit les pages, comment on les structure, comment on fait telle ou telle chose, ça, je le rajoute dedans. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est important pour moi. C'est-à-dire que je veux pas être ce que je faisais en agence web et ce qui me frustrait beaucoup, c'est-à-dire faire du site pour faire du site, mais sans faire de la partie conseil, accompagnement. Le site, là, il y a un site avec une cliente qui est en train de se faire. Dedans, il y a une partie coaching sur comment se présenter, comment rédiger ses pages, comment structurer sa page d'accueil, comment structurer son contenu, comment mieux écrire, son positionnement aussi en tant que personne qui doit vendre ses services, et ce qui est pas forcément facile puisque c'est une nouvelle activité qu'elle est en train de faire. Elle change de métier, et donc quand on fait un nouveau métier, ben il faut un nouveau positionnement, et ben je l'aide aussi par ça. Et donc ça, c'est ça fait partie, voilà, d'un équilibre qui s'est créé. Je ne suis pas à une époque, par exemple, je faisais de la rédaction de contenu, je faisais la rédaction de texte, etc. Cette année, j'en ai pas fait. Ça veut pas dire que je veux pas en faire, ça veut juste dire que je vais pas le faire dans n'importe quel domaine. Autant je peux le faire dans le domaine du sport assez facilement. Je pourrais le faire dans le domaine, par exemple, du podcast, si ça pouvait se présenter. Mais à une époque, par exemple, on m'a fait écrire des articles sur la voiture électrique, sur les fenêtres, sur plein de thématiques comme ça. Et ça non, franchement non, parce que ça demandait beaucoup de recherche. Certes, j'ai appris des choses sur la voiture électrique, ce qui m'amène d'ailleurs à rigoler quand j'entends ceux qui ont une démarche écologique en parlant de voiture électrique, non pas sur le coût des voitures, du coût des batteries, etc., mais juste sur une question importante en France qu'on doit se poser, c'est que d'où vient l'électricité. Et puis vous avez peut-être vu l'actualité sur les coupures électriques, les centrales nucléaires, etc. Donc je pense que le débat sur la voiture électrique, la voiture hybride, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur les SUV. Et bon, là je vous en parlerai pas, mais je suis en guerre contre les SUV pour différentes raisons. Et il y a une raison notamment, c'est quand je mets ma fille devant un SUV, je prends tout de suite très 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 peur. Alors imaginez le jour où Tesla annonce un SUV qui fait je sais pas combien de tonnes électrique, et là je prends peur, je prends vraiment peur. Mais bon, ça c'est un petit détail. Toujours dans le bilan de mon activité podcastique, quand même, je dois vous dire un truc, c'est que j'ai enregistré cette année autour de 170 épisodes de podcast sur mes différents podcasts. Bon, il y en a 80 sur la vie créative, il y en a 52 sur Kilomètre 42, bah oui, un par semaine, bah, j'ai raté aucun rendez-vous. Sur la vie créative, il y en a plus parce que vous savez, à un moment donné, j'étais reparti sur un rythme de faire un par jour, et puis j'ai arrêté à nouveau, mais ça c'est encore mon histoire d'essentialisme. J'avais lancé un podcast qui s'appelle No Gluten Bear sur mon mois sans gluten au mois de novembre, et puis un autre podcast qui s'appelle Sport et Nutrition, qui était lancé en partenariat avec une marque qui s'appelle Happy Run. On en a fait 22, vous voyez, donc ça fait autour de 170 épisodes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, enfin un peu moins de 170, mais à la louche, on va dire, ça fait 170 épisodes, ça ferait 170 si on compte les épisodes où j'étais invité par d'autres personnes, etc., enfin voilà. J'ai fait aussi, bien sûr, la vidéo YouTube, j'ai fait des articles de blog, j'ai fait des mails, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu, je sais pas si je peux dire que je fais un contenu par jour, mais grosso modo, pas si loin que ça. Et vraiment, ça c'est le cœur de mon activité, produire des contenus et puis derrière vous amener sur d'autres espaces dans lesquels j'ai des choses à vendre, et c'est la réalité des choses. C'est aussi ça, hein, je veux dire, c'est que puisque la pub ne permet pas de vivre à 100% de ces contenus-là, il faut les rentabiliser par d'autres choses, par d'autres éléments. Toutefois, je dois vous donner une précision qui est vraiment importante parce que j'ai une approche philosophique qui est vraiment différente de ce que je vois ailleurs. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont sur la création de contenu comme un moyen pour arriver à vendre des choses, pour arriver à se faire connaître, etc. Mais vraiment pour proposer leurs offres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se dit, aujourd'hui, je veux faire coach en musique, ou coach en cuisine. Et donc, je dois faire du contenu pour montrer que je suis capable d'être coach en cuisine. Et moi, ma logique, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire que moi, mon plaisir, c'est de créer du contenu. Moi, je me vois d'abord comme étant un créateur de contenu, quelqu'un qui, j'ai envie de vous partager du contenu, partager mes connaissances, expérimenter des choses, les tester, vous raconter un petit peu les choses, comment je les ai montées, l'impact, etc. Et à partir de là, en découler des sources de revenus, en fait. Et c'est une logique qui est différente, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont vous dire, voilà, vous voulez vivre de... Vous avez marre d'avoir un patron, vous avez envie de vivre d'une activité sur Internet, donc il va falloir créer du contenu qui soit vraiment spécifique pour arriver à en vivre sur Internet, faire ça et ça et ça. Moi, je suis plutôt dans l'esprit de dire, je pense que tout le monde devrait créer du contenu parce qu'on a tous des choses à apprendre à quelqu'un. Et vous savez, on pourrait prendre, j'avais beaucoup critiqué la pyramide de Maslow en disant, finalement, dans la pyramide de Maslow, il y a un petit souci en fait. C'est-à-dire que si on attend d'être au sommet de la pyramide et d'avoir rempli toutes les couches du bas pour arriver à faire des choses qui soient comme la création de contenu, c'est-à-dire créer du contenu pour créer du contenu parce que ça nous fait du bien, je pense qu'il y a un problème là-dedans. Moi, je pense qu'en fait, que tout le monde devrait créer du contenu parce que créer du contenu, c'est déjà prendre une place sur Internet, s'exprimer, prendre une place dans notre entourage, et en fait, on le fait tous. C'est-à-dire qu'on le fait tous déjà. dans votre travail, si vous, votre travail, si vous avez des collègues, si vous avez un patron, si vous avez des stagiaires, des gens comme ça autour de vous, des clients, vous créez du contenu pour eux. C'est-à-dire que vous leur, si vous leur faites un mail, ben en fait, vous créez du contenu pour eux. Et vous allez essayer de le structurer de différentes manières pour que bah ils fassent quelque chose du mail. Mais en fait, il y a plein de contenus que vous pourriez faire autour de vous parce que vous avez des choses à partager. Vous êtes passionné de rugby. Pourquoi, si vous créez du contenu sur le rugby, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez renforcer votre passion, tout simplement parce que vous allez faire des recherches. Vous allez mieux comprendre, vous allez mieux analyser. Par exemple, je me suis rendu compte de quelque chose. Pendant 17 ans, et ça aussi, c'est quelque chose qui s'arrête en 2020, cyberbounia.net, qui était mon site d'actualité sur Clermont. Pendant 17 ans, en fait, j'ai parlé de plein de sujets. Il y a plein de sujets sur l'actualité locale que j'ai creusé, notamment aussi le sport, etc. Je me suis rendu compte que j'avais une manière de regarder les matchs de rugby, de foot, d'une manière totalement différente de ce que je fais maintenant. Tout simplement parce que, à la fin du match, je faisais un résumé du match pour publier sur Cyberbounia. Et ce qui veut dire que je devais avoir une analyse de comment le match se passait, comment il se déroulait, quelles étaient les actions, les moments forts, mettre un petit peu comment j'avais présenté les articles, etc., un petit peu le scénario du match. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, si nous basculons sur, par exemple, vous êtes passionné de sport, de rugby ou quoi que ce soit, je pourrais prendre le foot, je pourrais prendre le taekwondo, prenez ce que vous voulez. Du moment que vous avez commencé à créer du contenu sur ce sujet-là, mais en fait, vous allez regarder votre sport d'une manière différente, vous allez peut-être vouloir avoir envie de discuter avec les gens qui le font, des entraîneurs, des sportifs, vous allez avoir envie de regarder un petit peu les choses différemment, de les raconter un petit peu différemment, etc. Et ça va vous aider aussi dans votre pratique. C'est-à-dire que si par exemple vous faites du taekwondo et que vous commencez à créer du contenu sur le taekwondo, vous allez commencer en fait à progresser sur le taekwondo aussi parce que vous allez creuser les choses. Bah oui, alors en taekwondo, je fais ça, ça et ça. Je connais rien de taekwondo, donc je peux pas vous dire ce qu'on fait en taekwondo. Mais je pourrais vous le dire sur la course à pied, parce que c'est ce que j'ai fait sur Kilomètre 42. Et pourquoi je cours comme ça, par exemple? Pourquoi dans le taekwondo, je fais tel truc? Pourquoi je m'échauffe? À quoi ça sert de s'échauffer? Finalement, est-ce que c'est un intérêt? Pourquoi je fais tel échauffement? Pourquoi je fais tel truc? Pourquoi je fais telle récupération, etc. Mais vous pourriez le dire dans tout, dans la cuisine, par exemple. Vous faites de la cuisine, vous faites des gâteaux. Bon, à un moment donné, si vous commencez à créer des contenus sur la cuisine, sur les gâteaux que vous faites, vous allez vous demander, finalement, pourquoi je mettais ce sucre-là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Comment je fais ça? Etc. Et donc, vous allez progresser, vous allez apprendre, vous allez chercher l'information, etc. Vous allez apprendre. Et moi, je considère qu'en fait, on progresse. Vous savez, il y a toujours ces trucs, devenir la meilleure version de soi-même. Moi, je pense plutôt que si déjà on arrive à être un peu meilleur que la veille, et qu'on n'en fait pas une... On en fait plutôt une philosophie d'essayer de toujours s'améliorer, de mettre beaucoup d'ambition dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de toujours dire je veux m'améliorer, mais que parfois on n'y arrive pas, et puis parfois on y arrive. Je lis beaucoup de livres sur l'ikigai. Hein. Cette année, j'ai lu un livre sur l'ikigai qui était vraiment très intéressant. Puis j'en ai un autre là sur mon bureau qui est plutôt sur la méthodologie. Et dedans, je vais piocher. Je me rends compte à quel point en fait il y a des aspects dans la philosophie japonaise que j'applique. Et j'ai longtemps cherché mon ikigai avant de me rendre compte qu'en fait je cherchais la mauvaise manière de l'ikigai et que j'avais déjà trouvé probablement une grande partie de mon ikigai. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que à force de creuser ça, de progresser, l'ikigai, c'est là-dedans. Hein, c'est la recherche permanente de comment est-ce qu'on va perfectionner les petites choses, etc. Et vous savez que dans la culture japonaise, par exemple, il y a des histoires sur les potiers, sur qui cherchent à faire le bol parfait. Il y a ceux, les maîtres sushi, qui vont mettre 40 ans ou 50 ans à faire le sushi parfait, qui à 80 ans continuent à faire des sushis. Et d'ailleurs, le secret des centenaires, c'est qu'ils continuent à travailler sur quelque chose qui les passionne et de toujours perfectionner ça petit à petit, parce que ils considèrent qu'au bout d'un, quand ils s'arrêtent, ils commencent à perdre la tête. Et c'est pas faux, quand on regarde un petit peu les retraités autour de nous, des fois on se dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est les retraités qui se retrouvent d'un coup sans activité, mais finalement il leur manque quelque chose, il leur manque la stimulation du cerveau, etc. Là je m'écarte un peu, mais ce que je veux dire en fait, c'est que moi je vois beaucoup la création de contenu comme quelque chose qui nous permet de progresser dans notre vie, de devenir petit à petit une meilleure version de nous-mêmes, de progresser sur des choses. Et cette création de contenu peut être sur votre métier, sur votre passion, elle peut être sur plein de sujets, mais je pense en fait que c'est le cœur de quelque chose qui est vraiment très important et qui nous amène aussi de la confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes capable d'expliquer à quelqu'un ce que vous faites, soit dans votre métier, dans votre passion, etc., vous êtes capable de lui expliquer les fondements, la réflexion que vous avez, la philosophie que vous développez autour de ça, et que vous lui montrez les résultats, que vous montrez ce que vous êtes capable de faire avec, ça vous montre aussi que vous pouvez gagner en confiance là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi vous dire, ben, si j'ai réussi ça dans ce domaine-là, pourquoi je ne le réussirais pas dans un autre domaine? Et ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. C'est pour ça que je pense que pour moi, on est tous des créateurs de contenu, on doit tous être des créateurs de contenu. Et vraiment, vous savez, le premier épisode de votre coach web, quand j'ai lancé, j'ai dit, c'est le podcast des créateurs de contenu. C'est pas le podcast de ceux qui veulent devenir riches et qui utilisent la création de contenu comme étant un outil comme un autre pour devenir riche. Enfin, riche au sens argent, des millions, etc., comme on nous vend partout autour de nous. Moi, je pense que la vraie richesse, en fait, c'est aussi d'avoir une richesse de temps, c'est d'avoir une richesse dans ses passions, dans les relations qu'on a autour de nous, dans ce que l'on fait, dans ce qu'on veut faire, etc. Et qu'il y a un moment donné, bien sûr, il faut gagner suffisamment d'argent pour qu'on puisse le faire le plus longtemps possible. Et c'est ça, en fait, la notion, on peut dire l'ikigai, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est ça, notre recherche à tous. C'est vraiment ça. Et moi, je le dis, vraiment, je le dis, je pense que la création de contenu fait partie de ce qui est pour nous extrêmement important. Et en fait, l'homme a toujours été un créateur de contenu, que ce soit en faisant du dessin, que ce soit en faisant de la musique, du chant, etc. Tout le monde crée toujours du contenu. Et regardez aussi, par exemple, vous créez du contenu si vous avez des enfants, si vous leur racontez des histoires. Bien sûr qu'à un moment donné, vous lisez des histoires. Mais combien d'histoires vous leur inventez? Combien d'histoires vous leur inventez? Combien de choses vous inventez pour les enfants, pour essayer de les occuper, pour leur raconter une histoire le soir, pour les tranquilliser? Regardez le nombre d'histoires de monstres, de princesses, la pensée magique, hein, ce qu'on appelle la pensée magique, c'est de dire, ma fille, elle a peur des monstres qui se cachent derrière le rideau. Bah, la pensée magique, c'est de dire, bah, tiens, attends, on va prendre ça, on va transformer en petite baguette magique, et qu'est-ce qui va se transformer là-dedans? Vous êtes créateur de contenu quand vous faites ça. Vous êtes créateur de contenu. Quand vous racontez l'histoire de ce qui vous est arrivé la veille à vos collègues du boulot ou je sais pas quoi, vous créez du contenu, vous le faites aussi, vous créez du contenu déjà. Donc on est tous des créateurs de contenu. C'est juste qu'il y en a certains, 99% des gens, se contentent de le faire finalement bah pour raconter une petite blague qu'ils ont entendue, ils vont la refaire à leur sauce. C'est raconter les petites histoires de la veille, etc. Des choses comme ça, et puis avec leurs enfants. Et puis il y en a certains, nous, hein, où on ose prendre la parole. On ose se dire, on est capable de le faire. Et puis, ça nous semble peut-être compliqué au départ de le faire. Moi, ça m'a semblé compliqué au départ de lancer mon premier podcast. J'aurais jamais imaginé que un jour, je pourrais avoir 800, 900, peut-être 1000 épisodes de podcast dans la musette. Le premier jour où j'appuie sur le bouton enregistrer a été très compliqué. Si ce matin, c'est facile d'appuyer sur le bouton enregistrer, c'est parce que j'ai fait des centaines d'épisodes de podcast. Rien que cette année, les 170 épisodes de podcast, je peux me dire que si on regarde les podcasteurs, si on regarde tous les gens qui se lancent dans le podcast maintenant, etc., j'ai acheté des bouquins sur le podcasting, etc., et j'ai vu plein de choses. Le volume d'épisodes qu'ils ont enregistré pour beaucoup est beaucoup plus inférieur, beaucoup plus faible à ça. Et par moment, en fait, je m'en rends pas compte. Et donc aujourd'hui, de vous dire que je regarde ce chiffre-là, pour moi, c'est aussi très important là-dessus. Je voulais vous faire aussi un bilan sur mes trois mots. Bah oui, j'ai commencé à vous parler de mes trois mots. Je vous annoncerai la semaine prochaine mes trois mots de 2022. Mais mes trois mots de 2021. C'est toujours dans mon bureau en fait, hein. Si vous regardez mes vidéos YouTube de cette année, vous allez voir, il y a un petit panneau, ils sont là, ils sont placés, etc. Et donc j'ai les trois mots, c'était rêver, planifier, concrétiser. Alors rêver, ok, d'ailleurs j'ai un nouveau rêve qui est en train de se mettre en œuvre. Alors là, si vous écoutez le dernier épisode de Kilomètre 42, vous allez entendre parler d'une histoire de van, ben c'est un peu le rêve. C'est pas, en fait c'est pas mon truc, c'est pas de dire la van life en fait, c'est pas... partir vivre dans un van pendant des mois et des années comme certains veulent le faire, c'est pas mon truc. Non, mon truc en fait, c'était ce que j'explique, c'est de dire en fait comment utiliser le van pour créer du contenu. Bah oui, je vous le dis, moi mon truc à moi, c'est de créer du contenu. Vraiment d'être un créateur de contenu, qui monte des projets, qui a envie de faire des choses, etc. Et donc j'ai imaginé un truc autour d'une histoire avec un van, ce que ça me permettrait de faire, comment ça me permettrait d'aller à la rencontre de la communauté, comment ça me permettrait de créer de nouveaux contenus, etc. Et donc ça, le rêver, ok. Le concrétiser, ok, ben je le dis vraiment, parce que le fait d'avoir de l'argent qui arrive sur le podcast, sur le sponsoring, d'avoir des offres, d'avoir, je vous l'ai pas dit aussi, mais par exemple mon livre, Le Contenu Minimum Viable, tous les jours, enfin pas tous les jours peut-être, mais tous les mois, il y a toujours, toutes les semaines, il y a toujours des ventes, etc. Donc c'est un espèce de contenu de revenus passifs, comme on pourrait dire. Je voulais faire un deuxième livre hein, sur le nanobrime. Pendant le nanobrime, au mois de novembre, j'avais prévu d'écrire un deuxième livre. Et en fait, je vous le dis, je l'écrirai en 2022. C'est un des projets que j'ai, mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. C'est vraiment un des projets que j'ai, c'est de le faire sur 2022. Donc, rêver, ok. Concrétiser, ok. Même s'il y a encore un petit peu de boulot là-dessus. Par contre, le planifier, vraiment, quel bullshit, quoi. Je ne suis pas câblé pour ça. Alors peut-être d'ailleurs que je pense que c'est peut-être aussi une question de contexte, mais c'est aussi une question en fait d'élan en fait. Moi je suis plutôt sur l'élan du moment. Il y a sur le moment, bah j'aime bien faire quelque chose et puis quand ça se prolonge trop dans le temps, ça m'ennuie, ça finit par m'ennuyer. Donc il y a un élan, il y a un certain élan à donner et cet élan en fait pour moi il dure sur j'aime bien un élan d'un mois ou deux mois. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ma formation planifie votre année. Peut-être qu'il faut changer le nom sur des choses, mais c'est pas vraiment planifier votre année en fait, c'est lui donner les grandes lignes, créer un GPS, quel est mon GPS sur l'année finalement, vers où je veux aller. Et même d'ailleurs je l'ai développé cette année, mais ça vient parce que c'est par rapport à la préparation mentale. Je me suis rendu compte en fait que je pouvais changer un petit peu ma vision des choses sur certaines choses, notamment sur la fixation des objectifs. Il y a des épisodes que j'ai fait par le passé sur ce podcast que je pourrais revoir totalement sur la fixation d'objectifs et je le ferai, vraiment je le dirai. Mais déjà, dans la formation, dans le programme Planifier votre année, déjà j'ai introduit des éléments sur la fixation d'objectifs pour voir les objectifs d'une manière différente. Et ça, c'est ce qui m'a apporté la préparation, la formation préparation mentale. Mais cette planification, en fait, bien sûr, il est difficile de planifier parce que toutes les semaines, on attend le discours du Premier ministre et puis là, on attend le discours du Président et puis on va avoir la campagne électorale qui va commencer, qu'est-ce qui va se passer, les variants, enfin, tout ce que vous voulez, il peut y avoir plein de choses. Moi qui ai travaillé dans la collectivité pendant 4 ans, je savais à quel point une campagne électorale bouge beaucoup de choses. Déjà, ça paralyse une partie des activités de beaucoup de gens, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de bouger, qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus faire grand-chose. Et puis, il y a même si vous dépendez un peu de la commande publique, c'est compliqué. Si vous avez des aides ou je sais pas quoi, c'est compliqué. Si vous travaillez pour des gens qui sont pas forcément des collectivités, mais qui sont un peu des, vous savez, les CCI, les gens comme ça, ben c'est compliqué. Les programmes tout bouge. Et en fait, il y a vraiment une période un peu là dans laquelle on rentre où on va parler de campagne. Et donc, ça va un petit peu glacer certains aspects. Et puis, en fait, après, on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer une fois que les gens sont élus? Et puis, est-ce qu'ils vont mettre en place de nouvelles mesures, etc. Bien malin, hein, celui qui va pouvoir dire finalement, qui va gagner. Bien malin. Et puis, qu'est-ce qui va se passer derrière? Quelles sont les mesures qui vont être prises? Qu'est-ce qui va être annoncé? Qu'est-ce qui va vraiment être concrétisé, pour le dire, pour reprendre ce mot? Et donc, c'est difficile, en fait. On peut se dire, bah oui, le mois qui vient, le mois de janvier, je sais ce que je veux mettre dedans. Le mois de février, je sais ce que je veux mettre dedans. Déjà, mars, j'en suis pas très sûr. Et puis, même le mois de janvier, je suis pas très sûr qu'il puisse pas y avoir un changement. Regardez, là, à partir du 3 janvier, vous devez avoir, normalement, si vous travaillez, 3 jours de télétravail obligatoire, hein, si les conditions le permettent, 3 jours de télétravail obligatoire. Je pense hein, que peut-être que quand vous avez planifié déjà il y a quelques jours, si vous avez commencé à planifier votre année 2022, ces 3 jours de télétravail qui n'étaient pas encore annoncés, ben ça modifie déjà votre plan. Voilà, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi je suis pas sur une planification à long terme, je suis sur l'élan. Quel élan on donne sur le mois de janvier, quel élan on donne sur le mois de février, quelle grande direction on veut donner sur l'année 2022, et puis aussi sur 2023, et puis aussi sur 2024, 2025. Mais les grandes directions, vous voyez, le grand GPS, et comment on fait, quels sont les moyens qu'on va mettre pour y atteindre. Et ben c'est un petit peu l'esprit en fait hein, de planifier votre année, c'est aussi l'esprit dans lequel maintenant je travaille. Et donc c'est pour ça que le planifier en fait tel que je l'avais imaginé ben, il y a un an, il va pas, il marche pas, il est pas lié au contexte. On doit être agile, on doit avoir de l'agilité. L'autre jour j'ai écouté une émission à la radio dans la voiture, vous voyez j'ai mis la radio, et il parlait en fait de que le travail était en train de se modifier, le télétravail, etc. Et en fait je constatais qu'en fait ce qui manque beaucoup c'est l'agilité, la capacité à s'adapter. On doit être agile. Quand on est créateur de contenu, de toute façon on doit être agile parce que tout change à tout moment. Regardez quelle est l'application qui a été la plus téléchargée cette année sur les App Store. Pendant temps c'était Instagram ces dernières années, et puis cette année c'est TikTok. Quel est le réseau social qui a créé le plus de volume de trafic de données? C'est pas YouTube, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est TikTok. Et pourtant, il y a quelques temps, on vous disait, oui, TikTok, c'est pour les gamins, c'est des gamins qui dansent, etc. Mais en fait, on peut faire plein de choses sur TikTok. Il y a des gens qui ont construit des grosses audiences sur TikTok en pensant des choses soit sérieuses, soit des choses, des contenus éducatifs. Et notamment, là, je suis toujours fasciné, je donne toujours cet exemple-là, c'est ceux qui créent un business autour d'Excel, sur comment utiliser Excel, et qui le font sur TikTok ou sur des réels Instagram. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, les contenus qu'on peut faire sur les plateformes ne dépendent pas que de la plateforme. C'est pas la plateforme qui dicte les contenus qu'on va faire. Bien sûr, hein, Instagram cette année nous pousse vers la vidéo, mais je pense, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'avoir de la vidéo sur Instagram. Alors bon, il y a au bout d'un moment peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais il faut être agile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah en ce moment, vous devez faire du réel pour faire croître votre compte sur Instagram, mais peut-être que ça marchera pas dans 2 mois, dans 3 mois, et donc il faut une certaine agilité, et ça c'est un truc qui est important. Peut-être que l'agilité fera partie de mes mots de 2022, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'en sais rien pour l'instant, et je vous en parlerai la semaine prochaine, ça sera mon travail. Hier, j'ai acheté aussi mon nouveau bullet journal pour l'année, mon nouveau cahier pour l'année, etc., pour le remplir, et dedans, l'une des premières pages, ça va être la définition de mes mots, et je vais prendre ma propre méthode à moi, hein, ma formation, mon workbook, hop, et puis je vais suivre les étapes, et je vais regarder sur quoi je vais travailler, comment je vais réfléchir à tout ça. Donc ça, voilà. C'était un peu le bilan de mes 3 mots. Ensuite, il y a un élément important sur 2021 que j'ai fait, c'est le début de la refonte de ma marque personnelle. En fait, j'ai fait un constat clair, c'est qu'au lieu de construire ma marque globale, personnelle, Bertrand Soulier, je construisais des marques. La marque Votre Coach Web, la marque KM42, la marque... Il y en aurait plein d'autres marques comme ça. Hamster Zoning Club. Alors, le Hamster Zoning Club est une émanation, finalement, de KM42. Mais finalement, quand on est arrivé sur mon site Bertrand Soulier, et puis certains me l'avaient fait remarquer, ils me disaient, mais par exemple, si on arrive sur bertrandsoulier.com, on voit pas que tu fais des formations, on voit pas les autres podcasts, on voit pas votre coach web, la vie créative, etc. Et puis, c'était pareil si on arrivait sur votre coach web. Finalement, votre coach web.com ne montrait qu'une partie, montrait pas l'autre partie. Et alors qu'en fait, finalement, tout ce que je fais, c'est que moi, et mon unique moi, mon histoire à moi complète et mon parcours, etc. Et c'est pour ça, notamment, que j'ai en projet d'écrire un livre qui va retracer un petit peu ce cheminement du créateur et comment finalement par la création de contenu, par le mélange création de contenu, de sport, de plein de choses, je suis en train de créer ce que je suis en train de créer. Voilà, c'est un peu l'esprit de ça, et comment vous allez pouvoir faire de même, en fait, avec des étapes, quelles étapes j'ai suivies, comment faire de même, et c'est vraiment raconter, documenter, décortiquer un petit peu tout ce que j'ai fait, et puis aussi, il y a d'autres choses que je suis en train d'imaginer aussi avec ça et comment je vais les mettre là-dedans. Mais pour faire ça, en fait, il faut d'abord que je fasse une refonte de ma marque personnelle, que je construise finalement un écosystème qui soit plus facile à gérer pour moi, parce que ça devenait difficile à gérer pour moi, parce qu'il y a des trucs dans tous les sens, ça fait 2 chaînes YouTube, ça faisait 2 lettres, presque 3 newsletters, en fait, si on imagine, parce que j'ai mes mails que vous avez peut-être, vous recevez peut-être quand vous prenez mes lignes magnet, j'avais mes liens de dimanche, j'ai ma lettre du running, d'ailleurs qui a pas pu partir parce que l'autre jour elle s'est fait bloquer par review sur une question d'importation de contact, enfin vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui me prennent beaucoup de temps, et puis ça devient difficile à comprendre pour vous. Alors bien sûr, il y en a qui sont abonnés à tout, et je vous remercie. Mais en fait, ça devient difficile à comprendre pour vous, ça devient difficile pour moi en disant est-ce que je mets le lien à tel endroit, comment je le mets, etc., qu'est-ce que je raconte au final. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a un chantier qui est en cours. J'ai commencé déjà le chantier, hein. Je vous donne un exemple. Par exemple, le site de KM42 s'est arrêté et maintenant je mets tout sur mon blog bertrandsoulier.com. Et en fait, les podcasts vont partir comme ça aussi, c'est-à-dire donner une visibilité globale à mes podcasts autour de moi, en fait. Et il y a un truc, je regardais ce matin mes vignettes de podcast, c'est pas pour rien, je lui dis aussi dans l'information, moi je mets ma tête sur les podcasts, c'est Bertrand Soulier, c'est le KM42, c'est le running, le mouvement, comment j'envisage ça, moi, et comment je vais chercher des gens, des interviews, des choses comme ça. La vie créative, c'est la vie créative de Bertrand Soulier, de comment, selon Bertrand Soulier, on développe une vie créative, et comment on peut en vivre, et qu'est-ce qu'on peut en faire avec. C'est pas une vérité globale, en fait. On n'écrit pas une encyclopédie, on n'est pas le Wikipédia quand on fait un podcast. En fait, c'est nous, c'est le contenu, le sujet, fois nous, multiplié par nous, notre cœur, etc. Donc ça, c'est vraiment le chantier en cours. Ça prend une nouvelle dimension sur début 2022 parce qu'en fait, je me suis inscrit à un mastermind, vous en avez parlé dans les mails. Sur les 3 mois qui viennent, en fait, je dirais tous les vendredis, on va discuter, on va aller là-dessus. J'ai pris du coaching aussi pour m'aider, pour avoir un œil externe, en fait. C'est-à-dire que moi, si je fais du coaching, je vous accompagne par le coaching pour progresser sur des choses. Il y a des moments où moi, pour progresser, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus en avance par rapport à moi et qui peuvent me donner aussi un œil externe. Et là-dessus, je vais travailler là-dessus. Alors, j'avais pris un coach, je dois le dire, sur l'année. Ça s'avérait être une catastrophe avec lui. Il m'a planté pendant un mois, etc. Enfin bref. Et j'ai donc au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas possible de travailler comme ça. Si je t'envoie un message et puis que 5 semaines après, tu m'as toujours pas répondu et que tu me réponds à côté de la plaque, écoute, ça ne peut pas, on peut pas bosser là-dessus. Donc ça, je l'ai stoppé. Par contre, j'ai pris quelqu'un d'autre avec lequel il y a plus d'échanges, etc. qui correspond mieux à ma philosophie. Mais ça, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Ensuite, un truc que j'ai fait sur 2021 qui était très important pour moi, que je ne pensais pas faire au début de l'année, je l'avais un petit peu en tête, je me disais oui, ça me plairait bien, il faut que je travaille cet élément-là, c'est ma certification en préparation mentale. J'ai à partir du 1er septembre, depuis le 1er septembre, j'étais en formation en préparation mentale sur alors plutôt orienté sport, mais en fait, je me rends compte à quel point je prends les outils de préparation mentale, je peux les mettre dans l'entrepreneuriat, je peux les mettre dans la création de contenu, je peux les mettre dans le sport, bien entendu, je peux les mettre dans plein de choses. En fait, il y a des exemples qui sont donnés pour le sport, qu'on peut donner pour nous, et vous savez que j'ai toujours fait un parallèle entre le sport et la création de contenu. Et notamment, il y avait un truc aussi, par exemple, sur la logique, quand on dit on ne court pas un sprint, mais on fait un marathon, etc. La création de contenu, l'entrepreneuriat, c'est plutôt du marathon que du sprint, etc. Et en fait, même ça, je le vois différemment, mais tant qu'à filer un petit peu la métaphore, on pourrait dire qu'en fait, un sportif, par exemple, Kipchoge, qui est champion du monde, champion olympique de marathon, etc., qui est le meilleur marathonien du monde actuellement, qui est le premier à avoir couru un marathon en moins de 2 heures, même si c'est pas officialisé dans les records, etc., en fait, il construit une carrière de marathonien. C'est-à-dire que c'est pas un marathon, c'est une carrière de marathonien. Et ça, c'est une vision totalement différente. Et ça, c'est la préparation mentale qui m'amène aussi. Et je commence à faire des consultations en préparation mentale. Et cette préparation mentale, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'elle me manquait. Elle m'a manqué dans mes débuts en sport, elle me manque dans mes débuts en création de contenu, dans mes débuts en podcasting, un début en tout, quoi, en YouTube, etc. Et qu'en fait, cette dimension de préparation mentale, on peut la mettre dedans. Parce que, par exemple, ça m'amène à revoir totalement comment je définis des objectifs, les routines, le discours interne. Vous voyez tous ces trucs-là. Le discours interne, vous dites, bon, je voudrais faire une vidéo, mais franchement, je me sens trop nul pour la faire. C'est du discours interne. Eh ben, vous savez quoi? J'ai des outils pour vous aider à faire ça. Mais ces outils-là, ben, moi, je les ai appris. Je les applique, je les ai appliqués pour moi, je vais me faire un bon programme cette année d'ailleurs d'amélioration de mon fonctionnement. Mais ça, je vous en parle parce que j'ai déjà aussi commencé, je vous en parle juste dans quelques secondes. Mon programme Planifier votre année, par exemple, inclut des éléments qui viennent de la préparation mentale, notamment la fixation d'objectifs, etc. et comment on les voit sur le long terme. Donc la certification en préparation mentale était pour moi un truc vraiment très important. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai lu beaucoup de livres aussi sur la préparation mentale. Hein. J'ai pas fait que la certification, j'ai lu beaucoup de livres. Il y en a encore d'autres qui viennent, ça m'amène beaucoup de réflexions. J'ai lu beaucoup de contenu, etc. Et même, je suis en train de me poser la question de savoir vraiment de savoir si je vais pas retourner sur les bancs universitaires pour suivre encore un cursus, un diplôme universitaire en préparation mentale, pour aller encore sur un autre niveau. Mais ça fait partie, vous voyez, de fameux rêver, qui est pas qu'un rêve, hein, c'est comment le concrétiser. Je suis en train de regarder si ça peut se faire ou pas, comment ça pourrait se faire. Maintenant, je dois vous dire aussi quand même qu'il y a une grosse difficulté dans l'année dont je veux vous parler. C'est la gestion du temps par moment, mais qui est liée en fait, et j'ai fait une vidéo, j'ai fait des contenus sur ce sujet-là, etc. C'est notamment la gestion du temps et des émotions avec Camille, ma fille. En fait, je pensais assez naïvement qu'en allant à l'école, on gagnerait des heures par semaine. Parce que l'école, le matin on l'amenait, il fallait prendre la voiture, il fallait récupérer à la crèche, enfin avant aller à la crèche, jusqu'à fin juillet dernier. Et donc le matin il fallait l'amener en voiture, il fallait récupérer le soir en voiture, et maintenant on la va à pied. Donc rien que le temps déjà d'amener le trajet, déjà il est plus faible, alors il n'y en a pas beaucoup de trajets, mais le temps de la mettre dans la voiture, de l'attacher, enlever le blouson, remettre le blouson, enfin vous voyez tous ces trucs là, par rapport au fait de l'amener à l'école, ben déjà c'était j'ai calculé que ça faisait presque presque 2 heures ou 3 heures par semaine au départ, hein, de gain de temps potentiel, par des petits truchements comme ça, hein, de dire bah tiens, il y a une demi-heure à tel endroit, une demi-heure à tel endroit, le fait de l'amener, d'aller chercher, de se garer, de devoir se regarer une fois qu'on revient à la maison, etc. Le fait de ne plus avoir le faire, de le faire d'être à pied, déjà c'était un gain, je trouve, déjà pour la planète, de ne pas prendre la voiture, c'est un gain financier, de ne pas dépenser de l'argent en essence, et puis c'était un vrai gain de temps. Donc moi je l'avais vu comme ça, et c'est vrai, sur cet aspect-là c'est vrai, mais un constat en fait, c'est que d'une part il y a plus de vacances, et ça j'avais fait un épisode au début en disant bah je pensais qu'on aurait 4 mois de vacances dans l'année, hein, on était plutôt sur 4 mois de vacances, et en fait je me rends compte que, par exemple sur le mois de novembre, là où elle était censée être à l'école, 2 semaines, à un moment 2 semaines, elle a fait que 2 jours d'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a les petits rhumes, les maladies, les trucs Covid qui sont là. Alors nous on n'a pas eu de fermeture de classe, mais le jour où elle a eu le nez qui coule et un peu de fièvre, ça a duré une journée, ça veut dire que c'était une semaine où pendant toute la semaine pour aller à l'école c'était un peu compliqué, où elle peut pas y retourner, elle a pas pu y retourner le lendemain, et puis après le jeudi, le vendredi, il valait mieux pas l'amener parce qu'on savait pas ce qui s'était passé, même si elle était en pleine forme, qu'elle sautait dans tous les sens, et puis il y a eu des petits maux de ventre, des petits soucis comme ça, enfin voilà. Donc à un moment donné, au lieu d'être à l'école, elle était à la maison. Et nous, comme avec ma femme, on travaille tous les deux à la maison. Ça veut dire qu'en gestion du temps, il y a un moment donné, on pouvait pas travailler. C'est juste qu'il y a des moments donnés, on pouvait plus travailler. Et donc là où moi je voyais, je me disais, dans l'année, elle a 4 mois de vacances. Donc nous, il faut qu'on travaille sur 4 mois. Et moi, c'est 4 mois, mais 4 jours par semaine, puisque le mercredi, je travaille pas ou très peu. Je travaille entre 5h et 7h. Et j'étais dans un espace-temps encore qui s'est encore réduit. Et ça, je l'avais mal anticipé sur 2000. Franchement, je l'ai mal anticipé sur 2021. Je l'avais pas vu, je l'ai pas expérimenté. Maintenant, je connais l'expérience, c'est-à-dire que je le vois commencer. Et là où je pensais que ça allait se passer d'une certaine manière, je vois que c'est un peu différent. Et ça m'amène à me dire que pour 2022, il y a des choses que je dois remodifier, que je dois revoir. J'en tire vraiment la conséquence. Et la conséquence que je tire de ça, c'est que je dois devenir beaucoup plus essentialiste. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire que j'ai ce volume de temps. Et notamment, je me disais, j'ai ce volume de temps, je peux le remplir à fond. Et voilà. Et je mettais de la marge quand même. Je mettais toujours 20% de marge. Hein. C'est ce que je mets dans mes formations. Je dis toujours j'ai 20% de marge sur le planning, etc. Mais en fait, je me rends compte en fait que la marge de 20%, elle doit être encore plus importante. C'est là aussi là où j'apprécie, par exemple, la publicité sur le podcast. C'était une discussion qu'on a avec ma femme hier. Ma femme, quand elle fait de la rédaction de contenu, que c'est payé au mot, si elle écrit pas ses mots, elle a pas d'argent. Moi, une fois que mon podcast est enregistré, qu'il y a la publicité qui tourne dessus en automatique, même si je ne travaille pas, finalement, l'argent revient d'une manière passive. Alors, qui est pas vraiment passive parce qu'il faut faire les épisodes de podcast, les enregistrer, les préparer, etc. Bon, voilà. En fait, pour tout vous dire, ma fille est rentrée dans le bureau pendant l'enregistrement, donc on a fait une petite pause. Donc, je reprends et je disais donc, c'est sur ces notions, globalement, d'être plus essentialiste. La passivité des revenus, qui est une fausse passivité, mais qui est quand même une réalité, hein, je veux dire, voilà. Le but de ma réflexion, en fait, c'est d'arriver à un moment donné où je fais vraiment l'essentiel, où je détermine l'essentiel, et surtout sur lequel je peux me concentrer mon énergie sur certains points qui sont vraiment essentiels. Et vraiment, l'état d'esprit que je veux cultiver, c'est une petite phrase qui est « ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire ». Or, par exemple, je pourrais estimer que je peux faire un nouveau podcast sur un truc qui va me... je sais pas, quotidien, par exemple. C'est pas parce que je peux le faire, que je suis en capacité de le faire, que je dois forcément le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à distinguer. Souvent, en fait, quand j'avais une idée, je me disais « bon, voilà, je peux le faire, c'est une bonne idée, je peux le faire, donc je le fais ». Bon, maintenant, cette année-là qui va venir, je voudrais plutôt mettre un peu de réflexion, un petit peu plus un temps, mettre un petit peu de délai là-dedans, justement pour avoir le temps, hein, tout simplement, de regarder ce qui est essentiel, pas essentiel, et de vraiment me concentrer sur cet aspect qui est vraiment essentiel. Et puis, un dernier point sur lequel j'ai travaillé sans trop en parler cette année, sur l'année 2021, c'est mon cerveau. Oui, mon cerveau. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal, lié comme ça, etc., mais vous ne le voyez pas en fait, mais je me bagarre en permanence avec mon cerveau, avec ce qui se passe dedans, avec les ruminations, avec mon passé, mon histoire, avec mes idées, avec certains traits de caractère que j'ai, certains blocages, certaines croyances très limitantes. Tout ça en fait c'est une vraie bagarre, et quand je dis une vraie bagarre, c'est que par moment j'ai l'impression que ce que certains m'ont appelé d'ailleurs un peu une partie de subconscient, mais en fait vous savez, c'est les choses qui sont tellement intégrées en nous qui se voient même, qui finissent par ressurgir sur nos postures. Je suis en train de lire un livre en ce moment sur le lien entre le caractère et les postures. Même ma posture physique, finalement, traduit des croyances limitantes, des craintes, des peurs, tout un tas de freins, de choses comme ça. Et vraiment, cette année 2021, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Alors, j'ai travaillé par de l'olfactothérapie, j'ai fait aussi de la kinésiologie, j'ai aussi fait de l'hypnose sur le mois de décembre. Certaines lectures aussi m'ont apporté beaucoup de choses, certaines questions que je me pose, et puis toujours des démarches. Avec, notamment, je dois le dire, il y a beaucoup de dessins. Je fais beaucoup de petits dessins, de schémas, de choses comme ça, qui vont vraiment... me permettre d'aller mettre certaines idées. Voilà, j'ai des idées comme ça, des fois j'arrive pas à les écrire, et donc je vais les faire en dessin, mais sinon c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de choses qui passent par l'écriture. Là c'est vraiment un point sur lequel, d'ailleurs en 2021, je me suis un petit peu éloigné de ça, et je le regrette, c'est que j'ai fait beaucoup de podcasts, et j'ai délaissé un peu mon journal, j'ai délaissé ce que je faisais notamment sur Day One, c'était de marquer mon journal de gratitude. Je l'ai fait un petit moment sur cette année, mais je l'ai fait en papier. Après, j'ai changé d'outil, j'ai changé plusieurs fois d'outil. Un gros changement dans l'année 2021, ça a été la mise en place de mon second cerveau sur Obsidian. J'étais parti sur Rome Research, et puis finalement, je suis parti sur Obsidian, qui est pour moi un outil qui est vraiment extraordinaire et qui bouscule beaucoup de choses, notamment par rapport à mon journal, par rapport à Day One, par rapport à ce que je faisais dans ces outils-là. Et j'ai beaucoup questionné d'ailleurs le lien entre Obsidian, entre mon logiciel de gestion de tâches, mon calendrier, comment faire des allers-retours, comment éviter de faire des allers-retours, où est-ce que je dois gérer toutes les choses, etc. Et puis je dois vous dire que en fait ce matin, j'ai travaillé sur mon bullet journal, mais bullet journal en papier. Ça fait depuis peut-être 4-5 ans maintenant que j'ai un bullet journal papier. Sur l'année 2021, je l'ai un petit peu délaissé. Voilà, il y avait un moment donné où je l'avais un peu délaissé, mais ça venait aussi parce que j'avais un peu cette difficulté à voir un petit peu plus loin que quelques jours, quand on était dans les confinements. À partir de 2020, en fait, je me suis rendu compte que ça commençait un petit peu à se déliter. Je l'avais repris un petit peu. Et puis, sur 2021, j'ai subi deux opérations, une qui était voulue, qui est la vasectomie, et puis une deuxième qui n'était pas prévu du tout, qui est une opération du genou. Et là, ça a vraiment cassé quelque chose qui est important. C'est des habitudes ont été cassées. Tout simplement parce que déjà, il y a des habitudes qui se sont arrêtées avec l'hospitalisation. Même si ça a été sur une hospitalisation d'un jour, il y a des trucs qui se sont arrêtés que je ne peux pas plus poursuivre. Des habitudes qui sont fortement modifiées parce que physiquement, je ne peux plus les faire. Donc il y a des choses comme ça qui ont changé. Ça a modifié un petit peu tous mes rituels, etc. Et l'écriture est passée un petit peu à la trappe. Ce qui est totalement paradoxal, c'est que normalement, quand on peut un peu moins bouger, alors pendant quelques jours, je pouvais un peu moins bouger, l'écriture, justement, était intéressante. Mais en fait, ce que j'ai expliqué dans Kilomètre 42, c'est qu'à ces périodes-là, en fait, ça m'a cassé mes habitudes de bouger, etc., mais aussi les habitudes autour de la création, de l'écriture, de plein de choses comme ça. À tel point que, par exemple, sur novembre, je voulais écrire un bout d'un livre, et je l'ai pas du tout écrit. Alors, c'est vrai que à ce moment-là aussi, j'ai fait un nouveau podcast qui s'appelle No Glutenberg, qui était sur mon aventure sans gluten, un mois sans gluten. Et No Glutenberg, c'est un petit peu... C'est ce sentiment là un petit peu de dire je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de m'accrocher parce que sinon le défi sans gluten il y a des moments je l'aurais laissé tomber. Donc ça m'a permis de le faire, d'aller jusqu'au bout du défi sans gluten, de faire un mois sans gluten, d'expliquer, de comprendre vraiment ce qu'était le gluten, pourquoi je le faisais, que ça questionnait vraiment les choses, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que je peux faire un tel podcast que je dois systématiquement le faire. C'est une vraie question que je me suis posée après. Quand je ferai le bilan de ce podcast, pour l'instant je l'ai pas fait. Quand je ferai le bilan de ce podcast, c'est la question, c'était de dire, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de vraiment creuser la question, de vraiment aller plus loin sur le sujet, de bien comprendre, etc., de mettre des points et tout. Mais finalement, qu'est-ce que je fais de ça? Et est-ce que je devais le faire? Je pouvais le faire, j'ai pu le faire, c'était super plaisant, ça m'a permis de découvrir aussi une nouvelle forme de podcast, avec des petits épisodes qui étaient 3-4 minutes, avec un petit peu de rythme, de la musique, etc., que j'avais jamais mis sur les autres podcasts, et voilà, donc ça c'était un vrai point de progression, mais d'un autre côté, ça a pris un petit peu de temps, forcément, et puis ça m'éloignait aussi un petit peu, vous voyez, de ces rituels d'écriture. Donc, Cette année qui va venir, c'est sûr que je vais repasser par plus d'écriture, par plus de dessins, par plus de sketchnoting, par plus de schémas, de choses comme ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'épisode le plus écouté de La Vie Créative cette année, c'est notamment celui sur sketchnoting avec Anne Bernardi. On avait, sketchnoting, son parcours de freelance, etc. C'est un épisode qui vous a beaucoup plu. Fait partie des épisodes qui ont été les plus écoutés. Et je regarde beaucoup ce qu'elle fait, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et moi, ça m'a encouragé à reprendre en fait mes crayons, mes stylos. Je dessinais un petit peu moins ces derniers temps. Là, j'ai commencé à remettre sur mon compte Instagram, @BertrandSouvé sur Instagram. Vous allez voir, j'ai des quelques stories où je remets un petit peu mes dessins. Alors c'est un peu plus lié au sport hein, sur mon compte Instagram, mais là aussi ça va changer. Mais vraiment, le dessin, j'avais mis des feutres sur ma liste de Père Noël. Le Père Noël m'a amené des nouveaux feutres, des nouveaux crayons. Donc je vous l'ai dit, j'ai racheté un bullet journal. C'était ma tâche d'hier. Ce matin, commencer à faire du remplissage, de poser un peu le cadre, etc. Dedans, je vais y poser mes trois mots. Je vais y poser mes différents défis. Je vais y poser un petit peu tout ce que j'ai envie de placer dedans, de ce qui va être important pour moi. Et c'est aussi l'outil que j'utilise pour planifier ma semaine. Parce que il y a un élément qui est pour moi important, c'est que ça me permet de mettre sur papier, vraiment le fait de poser sur papier, de prendre le temps de réfléchir, de pas juste avoir des tâches qui s'amoncellent finalement dans les listes de tâches, dans les mails, dans plein de trucs comme ça. Et c'est de dire, bah là, avec l'intention, vraiment intentionnellement, de dire là, je dois travailler sur tel point. Et vraiment d'y mettre de l'intention. Et le simple fait de devoir déjà reprendre la liste, d'écrire, de regarder ce qui a été fait, pas fait, etc. C'est une intention et qui est pour moi qui est importante. Et dessus, je vais y ajouter l'écriture. J'ai acheté au mois de novembre, décembre, un ou deux livres sur notamment sur comment le sketchnoting pour réfléchir à sa vie, à l'évolution. J'ai acheté aussi différents livres aussi sur pour avoir des modèles, pour améliorer mon dessin. Il y a des choses aussi que j'ai prises sur des petits programmes de livres qui donnent des petits programmes sur la réflexion, notamment pour aller plus loin sur l'ikigai par exemple. Parce que en tant que tel, j'avais dit sur l'ikigai, j'ai fait une fausse route. C'est que je cherchais mon ikigai alors qu'en fait je pense que je l'avais déjà trouvé, c'est juste que j'en étais pas conscient. Mais il y a des notions dans l'ikigai, dans la culture japonaise qui m'intéressent beaucoup, dont j'ai déjà parlé, hein, l'esprit du débutant, de perfectionner petit à petit les choses, de continuer à aller chercher, à améliorer, voilà toutes ces notions-là. Et puis aussi se tourner vers le futur, comment se tourner vers le futur et faire quelque chose qui est vraiment... Alors, c'est pas de la perfection, en fait, qui recherche, même si dans la culture japonaise, bien sûr, il y a ce sens de perfection, mais c'est quelque chose, j'allais dire un mot qui est exceptionnel, je sais pas, ou génial. Vous savez, c'est comme j'ai repris l'expression « créer un podcast génial maintenant », qui était un podcast que j'avais créé pour expliquer comment lancer un podcast, et j'avais utilisé ce terme de génial, qui pour moi, finalement, peut-être est le plus... c'est peut-être le mot que je préfère parce que dans génial il y a un petit bout de génie et le génie en fait il y a plein de sens au génie en fait il y a le génie vous savez dans le génie civil c'est tout ce qui est l'organisation la logistique si j'avais fait mon service militaire j'avais demandé d'ailleurs à être dans le génie je voulais faire la logistique alors heureusement que j'ai pas fait mon service militaire, je pense, parce que j'aurais pu me retrouver à pousser des missiles dans des grottes de je ne sais pas où j'aurais pu être juste postier, et c'était vraiment pas du tout l'image que je voulais avoir. J'ai un copain de promo hein, qui a fait la poste à Toulon, quelque chose comme ça, et qui a pas trouvé ça extrêmement intéressant comme activité. Moi, ce que j'imaginais, c'était gérer des flottes de camions, d'organiser ça, etc. Et voilà, c'était mon truc. Mais le génie, c'est aussi, bah bien sûr, on a la notion de génie. Alors, il y a plusieurs génies. Le génie dans ce qu'on a dans la tête, le génie qui sort de la lampe. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Et en fait, je pense qu'à force de polir un peu nos idées, bah finalement, on en fait sortir un peu le génie qui est en dedans. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. C'est pour ça que j'aime bien le terme génial. Voilà. Donc, je vais passer par ça, par l'écriture. Et ça me permet de vous dire que en janvier, je voudrais commencer l'écriture d'un nouveau livre. J'avais deux idées de livre en fait. J'avais une idée de livre qui était plutôt autour du sport, notamment comment j'ai couru mon premier marathon, comment je suis passé de mon canapé finalement à marathonien et puis à courir maintenant tous les jours, puisque maintenant ça fait 6 mois que je cours tous les jours, enfin 5 mois que je cours tous les jours depuis fin juillet. Et j'avais un autre projet qui était de dire comment un projet autour de un peu le contenu minimum viable mais façon podcast en fait, vous voyez, autour du podcast, comment lancer un podcast facilement, ma méthode pour lancer un podcast, etc. Et en fait, je vais, et c'est là dans la réflexion de ma marque personnelle, l'idée c'est plutôt de mixer les deux. En fait, c'est plutôt de mixer les deux, c'est de dire comment en créant du contenu sur la course à pied, je suis devenu une sorte d'influenceur running. De manière totalement surprenante, en fait, certains pourraient dire que sur un malentendu, de manière improbable, un peu façon imposteur, etc., parce que j'étais le gros hamster sur son canapé, 105 kilos, 107 kilos même un jour, et puis qui perd 27 kilos et qui arrive à courir un marathon, mais qui va plus loin que ça, c'est que maintenant j'ai des podcasts sponsorisés, je le disais, par Nike, Adidas, etc. Et ça, en fait, je voudrais décortiquer ce parcours. Là, j'ai commencé à faire des timelines des différentes étapes par lesquelles je suis passé. Qu'est-ce que j'ai mis en place sur le plan sportif? Qu'est-ce que j'ai mis en place sur le plan de la création, sur le plan de la communication? Comment j'ai développé ça? Comment j'ai réfléchi aux différentes choses? Et comment on peut en tirer finalement une sorte de, à la fois moi raconter mon parcours, parce que j'ai des choses que j'ai envie de raconter là-dedans, de comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et aussi finalement de mettre dedans des points, des grandes questions vous pourrez vous suivre en vous disant, bah tiens, je dis à ce stade-là sur quoi on se concentre, quels sont les parallèles, etc. Faire un petit peu ces retours, mais que vous puissiez vous aussi appliquer avec des questions, des lectures complémentaires, etc. Donc ça, je vous le dis, maintenant que c'est dit, voilà, ça sera un des gros projets de 2022, c'est d'arriver à écrire ce livre et de le faire sur le format comme j'avais fait le contenu minimum viable, hein. C'est-à-dire vraiment d'avoir un contenu qui soit pas c'est pas un gros pavé, le but du jeu c'est pas de sortir un gros pavé, le but du jeu c'est pas de forcément être édité chez un éditeur ou quoi que ce soit. En fait, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de sketchnoting, etc. Et je me suis rendu compte hier d'un truc, c'est que je regardais les livres, j'étais dans deux librairies, je regardais un peu les livres. Et je me suis rendu compte que je reposais systématiquement les livres qui étaient gros, qui étaient épais. C'est-à-dire que je cherchais, les livres que j'ai achetés sont des livres où il y a des questions, des tableaux à remplir, où il y a des schémas, où il y a du sketch note, où il y a des choses comme ça. Et tout simplement parce que il y a des livres où il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à lire, où c'est intéressant, etc., où il y a beaucoup de textes. Mais il y a des livres un peu des fois techniques ou un peu sur développement personnel où il y a beaucoup de blabla et j'ai pas envie de ça en fait. Et j'ai vraiment pas envie de ça. Et c'est là où vraiment je veux le faire à ma manière. Le contenu minimum viable, le livre, c'est un livre qui est assez rapide à lire en volume, en contenu du texte, etc., qui a quelques schémas, etc., et autres. Et je voudrais aller plus loin dans la notion, dans ce que je voudrais faire sur ce nouveau livre. Donc voilà, c'est un travail, c'est un chantier en cours qui commence qui va me permettre moi d'écrire, mais de pas forcément. Le but du jeu, c'est ne pas de faire que ça en fait. Hein, c'est d'avoir vidé ma tête par l'écriture et puis par moment, il y a des choses que je vais pouvoir piocher, je vais pouvoir ranger à l'intérieur de cet écrit là. Je le dis aussi, il aura une caractéristique ce livre auquel je tiens, c'est que ça sera un livre qui sera, bien sûr, vous pourrez l'acheter sur en version papier, vous pourrez l'acheter aussi en version numérique, e-book classique, et en fait, du moment que vous l'aurez acheté, vous aurez accès à la version Obsidian ou Rome Research. Enfin, ça sera l'un des deux, enfin les deux, je pense, au minimum Obsidian. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est que quand vous aurez le livre entre les mains, vous pourrez avoir accès à la version numérique en format des fichiers modifiables, tels qu'ils sont issus de mon second cerveau en fait, que vous puissiez vous-même les lire dans un logiciel comme Obsidian, donc un logiciel de prise de notes, mais dans lequel vous pouvez naviguer, cliquer sur les liens, etc. Je mettrai un petit mode d'emploi, et dans lequel vous pourrez mettre des notes. Et en fait, c'est ce livre-là, vous pourrez même l'intégrer dans vos propres notes à vous. Et si vous utilisez un outil comme Obsidian, mais Rome Research, vous pourriez le faire pareil aussi, c'est de dire, ben ça, ce bout de paragraphe-là, il vous intéresse, vous le gardez, et vous êtes capable de le réintégrer à l'intérieur de vos propres notes à vous. Et ça, c'est en fait ce que je vais faire cette année. J'aimerais bien écrire un ou deux livres de cette manière-là, c'est d'avoir des livres en fait, on pourrait appeler ça des livres enrichis d'une manière, des seconds... second cerveau compatible, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas c'est un petit peu l'esprit. Et ça veut pas dire que parce que je vais écrire je vais faire moins de podcasts, parce qu'il y a un constat que je fais, c'est que la plupart des idées que j'ai me viennent quand je fais du podcast et quand je parle, et ça va influencer aussi ma manière d'écrire. C'est qu'il est fort probable qu'une grande partie du livre, l'écriture, passe par aussi pour moi par le fait de le dire comme si je faisais du podcast, etc. Vraiment de l'avoir sur ce format-là, parce que c'est comme ça aussi que les idées sortent. Et ensuite, moi, je les retranscrirai, je travaillerai dessus, et puis ça me permettra de le réfléchir différemment, y compris de l'écrire en marchant ou peut-être de l'écrire en courant, parce que je vais courir encore tous les jours. Mais vraiment, ça fait partie, voilà, des grands projets pour que j'ai pour l'année qui vient. Voilà, j'ai fait un bon bilan de cette année 2021, que t'es. Quand on la regarde, en fait, bien sûr que le bilan est compliqué, que je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé, tout le monde en a marre de pas savoir ce qu'on peut faire, de pas prévoir. Ceux qui adorent voyager sont frustrés, ceux qui adoraient faire des courses sont frustrés, ceux qui adoraient planifier les choses sont frustrés, ceux qui adoraient voir beaucoup de gens au bureau sont frustrés, ceux qui adoraient les sorties au restaurant, les boîtes de nuit sont frustrés. Ceux qui détestent les piqûres sont frustrés, ceux qui détestent les médecins sont aussi frustrés, ceux qui ont peur sont frustrés, ceux qui ont de la famille âgée ou en santé moyenne sont frustrés, ont peur. On est dans deux années qui sont pas bonnes. Il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit dessus qui m'énervent profondément sur le comportement, qui mériterait d'ailleurs des analyses. On pourrait faire des analyses marketing autour du marketing de l'émotion. Comment le gouvernement, par exemple, utilise le marketing de l'émotion pour faire passer plein de choses, et vraiment beaucoup de choses au niveau de la vaccination, du pass vaccinal, sanitaire puis vaccinal, etc. Comment c'est mis en lumière, en valeur, etc. Et je pense qu'il y aura des études scientifiques qui vont être faites par des chercheurs en sciences sociales, etc., qui montreront à quel point finalement l'émotion a été utilisée et à quel point elle a été utilisée. Mais en fait, comme j'avais dit, ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire, et donc je vais me passer de le faire, en fait. C'est pas ça que je vais faire. Mes prochaines vidéos sur YouTube, j'ai commencé un petit peu à réfléchir au sujet, et je peux vous garantir, comme les prochains épisodes du podcast, que je ne parlerai pas de ça, parce que je vais vraiment me coller à... Vous voyez, une autre idée que j'avais dit, c'est est-ce que je pourrais pas faire un podcast sur les élections présidentielles ? Mais c'est pas parce que je peux le faire que j'ai une idée pour le faire, que je dois le faire. Et ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais continuer. On se retrouve toutes les semaines avec La Vie Créative. On va se retrouver toujours les mercredis, Kilomètre 42. Et puis, il y a un nouveau podcast qui arrive, qui s'appelle Kilomètre 350, qui est mon aventure vélo. Il y a toujours Sport et Nutrition aussi. Donc voilà, il y a toujours cet ensemble de Galaxy Podcast avec... 3 podcasts sport, ce podcast-là sur la documentation finalement, sur l'ensemble, etc. Plus le podcast privé pour ceux qui me soutiennent sur Patreon, plus la chaîne YouTube, plus Instagram, plus tout ça, vous savez cet ensemble-là, qui va être réuni autour de mon site bertrandsoulier.com, bertrandsouliertoutattaché.com, sur lequel je vais finir par tout réagréger, mais ça je vous en reparlerai, parce que c'est un gros boulot de quand même d'arriver à tout réagréger, de remettre de la structure dessus et tout. Par rapport aux activités pro, par rapport à mes activités sport, etc. Et c'est là où la marque personnelle je dois la reconstruire pour vraiment raconter ça. Mais ça sera le programme de 2022. En attendant, il me reste à vous souhaiter de très bons vœux. Si vous écoutez, ce message, cet épisode le 31, un bon réveillon, si vous faites le réveillon. En tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022. On a tout le mois pour souhaiter les meilleurs vœux. Et je ne peux pas finir ce mois de décembre sans une dernière papillote et une dernière citation. C'était ma tradition, donc je continue ma petite tradition. Et c'est une phrase de Stendhal. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Stendhal. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Et ben, vous voyez, comme quoi, des fois, le fait de tirer au sort une papillote dans un paquet qui en contient 25 et de tomber pile sur cette citation, il y a quand même comme un signe. Pourrait dire certains, moi, je crois pas vraiment au signe et à la loi d'attraction, etc. Mais quand même, là, on peut dire que celle-ci, elle est fort bien trouvée. Elle tombe pile au bon moment. Il me reste donc à vous souhaiter une belle année. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Et profitez-en bien. Planifiez ce que vous pouvez planifier, ce que vous avez envie de planifier. Faites confiance à votre élan. Et on se retrouve pour une belle année créative, sportive, pleine d'idées, pleine de choses à faire. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute, pour cette belle année 2021 qu'on a passée ensemble. Et on va faire des belles choses ensemble, ça j'en suis convaincu. Ciao ciao les créateurs.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.